Et c'est avec vous Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hervé et bonjour à tous. La crise sanitaire en France, deux doses de vaccins valent mieux qu'une. Ainsi en ont décidé les autorités, contrairement à celles du Royaume-Uni. À quel défi s'expose l'administration? Le regard du directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet. Quel impact psychologique prêté au couvre-feu avancé à 18h, mesure qui concerne 6 millions de Français? Élément de réponse avec Patrick Légeron, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Nous serons en direct de Lioron, en Ille-et-Vilaine, site d'une rave party qui a rassemblé près de 2500 participants. Évacuation et verbalisation en cours, nous ferons le point avec Sébastien Baer. Également au sommet, reportage au Liban, en proie à une crise économique et financière, pauvreté qui touche près d'un quart de la population et en premier lieu les réfugiés. Reportage de Laure Stéphane dans un camp de réfugiés syriens de la plaine de la Beka. Enfin, la bulle économique de Marie Viennot nous entretient ce samedi de la dette, plus de 120% du produit intérieur brut en 2021. Délicate reste l'organisation de la campagne de vaccination en France. Après avoir essuyé une salve de critiques, le gouvernement, flanqué de son administration pataude, a opté, le ministère de la Santé l'a confirmé ce matin, pour l'injection de deux doses de vaccin à 3 semaines d'intervalle. Deux doses, approche que valide Frédéric Adnet, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis et chef des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Praticien qui, dans un premier temps, vous allez l'entendre, éreinte la stratégie britannique. La Grande-Bretagne qui a décidé d'administrer qu'une seule dose de vaccin, Frédéric Adnet.
Ce que j'ai lu, et j'ai lu les phases 3 des deux vaccins Moderna et Pfizer, il est sûr que les résultats solides ont été obtenus après deux doses. On n'a pas de résultats solides après une seule dose. Donc je suis un peu étonné qu'on abandonne la deuxième dose. Je comprends l'urgence de la situation. Peut-être qu'une solution, on va dire, intermédiaire serait de retarder simplement la deuxième dose pour vacciner au maximum la population de manière urgente.
En France, ce sont quoi? Des lourdeurs administratives qui paralysent le processus de vaccination?
Oui, je crois que la stratégie était la bonne. On commence par vacciner les gens les plus fragiles, les plus à risque, parce qu'on va commencer par sauver des vies. Et dans une deuxième phase, on va essayer d'arrêter l'épidémie en vaccinant tout le monde. Ça, c'était une bonne stratégie. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que en vaccinant les sujets les plus fragiles, on a une espèce de lourdeur de consentement, de visite médicale, de temps de réflexion qui fait que ça devient inefficace. Il y a un retard à l'allumage qui est évident, avec à mon avis des procédures administratives qui sont surévaluées sur un médicament qui doit être traité comme un médicament comme un autre. On ne doit pas sortir cette vaccination du champ d'un médicament normal avec une procédure normale, simple, qui est compatible avec une vaccination de masse. On devrait vacciner contre le Covid comme on vaccine contre la grippe. Les études ont montré qu'il est sûr et qu'il est efficace. Et ben maintenant, il faut y aller et arrêter avec toutes ces procédures de précaution que l'on a avant de vacciner les gens. Ça devient délirant.
Frédéric Adnet, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis avec Matteo Maestrati. À ces lourdeurs administratives, il faut ajouter le nouvel horaire du couvre-feu qui entre en vigueur ce samedi dans 15 départements de la façade est de la France. Mesure de nature à priver leurs habitants de ces interactions sociales si précieuses en ces temps de restrictions renouvelées. Patrick Légeron est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et fondateur du cabinet Stimulus.
Les plus fréquents, c'est évidemment des niveaux de stress beaucoup plus élevés, des troubles anxieux, des syndromes dépressifs, et on sait bien que tous ces éléments de stress, d'anxiété, dépression peuvent former le terrain sur lequel va se développer un syndrome de burn-out, d'autant plus que à tous ces éléments, c'est-à-dire de difficultés psychologiques, vont s'ajouter des compensations, et des compensations qui parfois peuvent être dangereuses, comme par exemple des troubles addictifs variés, des modifications des comportements alimentaires. Souvent la tranche d'heure 18-20 heures, c'est une tranche dans laquelle on se détend, les jeunes rencontrent des copains après les cours ou après le travail, on fait des activités un peu plaisantes. Les gens les plus actifs vont ressentir peut-être une forme d'ennui. Il faut lutter contre l'ennui, c'est-à-dire les gens qui étaient habitués à occuper leur fin de journée d'une certaine façon, il faut qu'ils se programment des activités. Mais je crois qu'il faut les diversifier parce que beaucoup de gens se réfugient à ce moment-là, peut-être par exemple uniquement dans des séries télé ou dans des jeux vidéo, et deviennent vite addictifs. Je pense qu'il faut varier La deuxième chose aussi qui est importante, c'est de maintenir des contacts sociaux.
Des propos recueillis par Laurine Benjebria. Contacts sociaux très sonores en Ille-et-Vilaine, à Lioron, et dans la plus stricte illégalité. La rave party a pris fin au petit matin. Le ministère de l'Intérieur égrène les verbalisations, plus de 1200 selon les derniers chiffres. Verbalisations, entre autres, pour violence aggravée, organisation illicite de soirées festives et non-respect du couvre-feu. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Mathieu.
Sébastien, vous êtes sur place. Comment se déroule l'évacuation du site ?
Eh bien, toujours en cours, voiture après voiture, camping-car après camping-car, parfois à pied même, protégé du froid par une couverture de survie. Les fêtards quittent le site au compte-gouttes. Au petit matin, l'arrivée d'une dizaine de fourgons de la gendarmerie a créé, il faut bien le dire, un petit mouvement de foule parmi les rêveurs dont certains dormaient sous des tentes. Certains venaient à peine de se réveiller et quelques heures plus tôt, la techno qui s'échappait des hangars s'était arrêtée et le matériel, les enceintes, les barres de son, les groupes électrogènes avaient été démonté et transporté à la hâte pour éviter qu'il soit saisi. Et difficile désormais pour les fêtards qui quittent maintenant le site d'échapper aux 135 euros d'amende pour rassemblement illégal. Certains doivent aussi se soumettre à des tests de dépistage au cannabis. Cette évacuation, elle pourrait durer plusieurs heures puisque les gendarmes présents sur le site sont là simplement pour faire un peu accélérer le mouvement, un peu accélérer les départs. Mais ils n'ont pas prévu en tout cas d'employer la force. Au milieu de la route, route unique qui mène au site, il reste la carcasse incendiée d'un véhicule de gendarmerie, incendie dans la nuit de la Saint-Sylvestre, symbole des quelques débordements de ces dernières 36 heures.
Merci à vous, Sébastien Baer, en direct de Lioron. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Le Liban souffre en raison d'une crise économique et financière. 22% des Libanais vivent désormais dans l'extrême pauvreté. Chez les réfugiés syriens, ce taux monte à 90%. Alors qu'il était de 55% il y a un an. Le Liban accueille, rappelons-le, près d'1,5 million de déplacés. Reportage de Laure Stéphane dans un camp de réfugiés de Deir Zanoun, dans la vallée de la Beka.
Au milieu de tentes blanches serrées, des cris d'enfants qui jouent, des pleurs de bébés et le silence des adultes qui attendent. À cause de la crise, les travaux journaliers dans le bâtiment pratiqués par les réfugiés se raréfient. L'aide humanitaire est insuffisante. Amjad El Fares, 20 ans, père d'une petite fille.
Comment décrire nos conditions de vie? Si quelqu'un ne nous donne pas du mazout, on ne peut pas faire fonctionner les poêles. Tout est devenu difficile, je ne peux pas chercher des médicaments pour ma famille. Pour amener du lait à ma fillette, je dois m'endetter. On n'achète que ce qui est essentiel. Avec la crise du dollar, c'est devenu impossible. Tout s'est dégradé.
La monnaie locale a perdu 80% de sa valeur en quelques mois. À la peur de ne pas joindre les deux bouts s'ajoutent les tensions à cause de la crise économique. En un mois, des réfugiés syriens ont été à deux reprises la cible de punitions collectives dans le nord du Liban. Adnan El Hamoud, 28 ans, 3 enfants.
La situation sécuritaire est mauvaise, surtout après l'incendie d'un camp de réfugiés fin décembre. Avant, on se demandait comment nourrir nos enfants. Maintenant, on se dit, à n'importe quel problème, le camp peut être brûlé.
Dans ce camp de Deir Zanoun, la plupart des familles viennent d'une région rurale de Syrie, près du Liban, Kousser, détruite en 2013. Le retour est jugé impossible aujourd'hui par les réfugiés.
Au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Avec près de 40% des suffrages, il affrontera au second tour l'ancien président Mahamane Ousmane, deuxième avec 16,99% des suffrages. Résultat annoncé en fin de matinée par la commission électorale. En République démocratique du Congo, le pouvoir s'emploie à marginaliser les piliers de l'ère Kabila. Le 6 décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, annonçait la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur Joseph Kabila avant de confier hier une mission majeure au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, homme d'affaires très proche de Joseph Kabila jusqu'à tourner Kazakh l'année dernière. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour Mathieu Laurent.
Thomas, quelle mission au juste pour Modeste Bahati Lukwebo?
C'est une mission claire et prévue par la constitution de la RDC. L'informateur a 30 jours pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, une forme de conciliateur donc qui doit convaincre opposants comme membres du FCC, le parti de l'ex-président Kabila, d'adhérer à l'union sacrée souhaitée par le président Tshisekedi, jusqu'ici largement minoritaire à l'Assemblée. Pierre Jacquemot est chercheur associé à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en RDC.
Il va utiliser toute la palette des moyens que l'on connaît dans la vie politique congolaise pour créer une nouvelle alliance. Ça va d'abord supposer de mettre en cause l'actuel Premier ministre, qui est un pro-Kabila, pour essayer de débaucher. Le mot est un peu vulgaire, mais malheureusement, l'argent joue un rôle important dans le système politique de la République démocratique du Congo et depuis toujours. La distribution de prébendes, de postes, comme la location de devises, fait partie du jeu dans le débauchage, dans le retournement des alliances, et celle-ci autour de Tshisekedi.
C'est donc un nouvel épisode de la guerre politique que se mènent Tshisekedi et son prédécesseur Kabila, qui avaient pourtant été les acteurs principaux de la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de la RDC en 1960. Un brin de fer symbolisé donc par cette nomination de Modeste Bahati Lukwebo, ancien pilier du clan Kabila. Écoutez Pierre Jacquemot.
Lukwebo est un pur produit du système Kabila. Il avait même espéré un moment être son dauphin. Et puis ensuite, il avait espéré être président du Sénat. Deux postes qu'il n'a pas obtenus, donc probablement meurtri par ce manque de courtoisie politique de la part de Kabila, il a opté plutôt pour Tshisekedi. Ça démontre une habileté politique de Tshisekedi qu'on lui soupçonnait pas jusqu'à présent. Il a tout simplement retourné une partie des parlementaires, mais également pratiquement tous les gouverneurs de région qui étaient à la botte de Kabila, l'ancien président, à son profit.
Et Modeste Bahati Lukwebo a donc au moins 30 jours devant lui, une période renouvelable une fois pour convaincre une majorité capable de mettre en branle le programme ambitieux du président Tshisekedi, avec notamment l'objectif de l'éducation pour tous, de la santé pour tous, mais aussi pour stopper les épisodes sanglants dans les deux provinces du Kivu à l'est du pays, où 34 civils ont été tués ces deux dernières semaines.
Merci à vous Thomas Larabi.
La bulle économique, Marie Viennot.
En 2021, la dette va dépasser les 120% du PIB. Y a-t-il pour autant péril en la demeure? C'est le thème de la bulle économique d'aujourd'hui.
À ceux qui nous succéderont, peut-être les choses sembleront-elles plus simples.
Avril 1932, la crise de 29 n'est pas loin. Joseph Caillaux n'est plus alors ministre des Finances, mais il a été plusieurs fois auparavant et adresse un message à la postérité.
Peut-être des moyens plus efficaces de remédier aux maux dont souffre l'humanité auront-ils été découverts?
Quasi un siècle et de nombreuses autres crises plus tard, dont une en cours, que dirait-on à celui qui proposa en 1907 la création d'un impôt sur le revenu? On pourrait lui dire qu'aujourd'hui, l'État français se finance moins par ses ressources fiscales que par son endettement. 260 milliards d'emprunts en 2020, 250 d'impôts, c'est une première. On pourrait aussi lui donner le montant total de la dette publique française, sécurité sociale comprise, 2600 milliards d'euros, et lui dire qu'elle a doublé depuis 2007, année où le Premier ministre de l'époque, François Fillon, disait
« Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. »
On pourrait alors rassurer Joseph Caillaux et lui dire que non, l'État français n'est toujours pas en faillite, car toujours la France trouve des gens pour lui prêter. Que cela lui coûte même trois fois moins cher d'avoir deux fois plus de dettes qu'en 2007, parce que les taux sont négatifs. Il faudrait alors lui expliquer qu'aujourd'hui un État peut gagner de l'argent en s'endettant et que cela a rapporté 7 milliards d'euros à l'Allemagne en 2020. Joseph Caillaux demanderait alors peut-être par quelle magie tout cela est possible et on lui répondrait PEPP, QE, PSPP, c'est-à-dire les programmes de la Banque Centrale Européenne, ses émissions monétaires, des milliers de milliards d'euros. Et l'inflation, nous demanderait-il alors? Rien, négative aussi. Magique? Non, l'économie post-crise financière d'aujourd'hui. La BCE finance les États indirectement, mais comme l'argent passe par les marchés, ce sont les produits financiers qui augmentent, les obligations, les actions, l'immobilier aussi, et bien sûr, les fortunes de ceux qui ont déjà un patrimoine. Musique. On disait la finance déconnectée de l'économie réelle avant 2020, on ne sait plus quoi dire aujourd'hui. Après avoir frôlé le krach boursier à la mi-mars, quasiment toutes les bourses ont fini sur des records. Récession et euphorie financière vont désormais de pair. Les marchés anticipent une reprise explosive, explique un analyste. Qu'il y ait 10 millions de chômeurs en plus aux États-Unis, 1 million de pauvres en plus en France, ce n'est donc pas un souci. Que la dette publique française dépasse les 120% du PIB, non plus. Mais alors, pourquoi le gouvernement, lui, s'en inquiète depuis l'automne? 120%, nous dit-il, est-ce tenable, soutenable? Une commission a même été formée pour réfléchir aux voies et moyens de rectifier le tir. Pourquoi cet empressement, alors que s'endetter ne coûte rien et qu'il y a bien plus urgent? La dette est comme un paquebot, ce n'est pas un hors-bord, explique Anthony Requin, directeur de l'agence France Trésor qui gère la dette française. Comprenez, quand on a dévié d'un côté, celui de la dépense, il faut longtemps à l'avance prévenir qu'on va dévier de l'autre côté pour rassurer les investisseurs. Quitte à déprimer les agents économiques, déjà prêts pour le sang et les larmes, à peine la période des masques et des gels révolue, après le quoi qu'il en coûte, l'austérité. Pour éviter cet écueil, des économistes proposent d'annuler une partie de la dette, celle que détient la Banque Centrale Européenne. Le débat est ardu, tendu, or il pourrait bien s'inviter dans la campagne présidentielle, car des candidats déclarés ou putatifs sont séduits par cette idée d'annulation partielle. Ça peut être passionnant. Une occasion rêvée de débattre du rôle de la monnaie et des institutions qui la gèrent. Mais ça peut être aussi déroutant et incompréhensible, car j'ai une mauvaise nouvelle et je me mets dedans.
Vous n'avez pas les bases.
Alors je vous souffle une bonne résolution pour 2021, comprendre la création monétaire.
Merci à vous, Marie Vineau. Ainsi se termine la bulle économique de ce samedi. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Un retour neigeux de la région Rhône-Alpes à la Provence. De faibles chutes dans l'après-midi qui se décaleront vers le Massif central. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet, à la technique Jacques Hubert.